Tabasser à mort par amour, paraît que c'est courant de nos jours. Le métier d'épouse n'est pas sûr quand on est la femme d'un vrai dur.
Parce que je suis une femme.
Mais celle qu'il appelle sa traînée.
Parce que je suis un homme, je ne pourrai jamais comprendre ce que c'est que d'être violé, martyrisé, battu, harcelé, sifflé dans la rue. Mais parce que je suis un homme, je dois écouter la souffrance des femmes pour que demain, il n'y ait plus rien à expliquer, plus rien à comprendre.
Frappé à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.
La voix et le prénom du témoin de ce podcast ont été modifiés pour des raisons de sécurité. Marie a une quarantaine d'années, elle est maman, elle a plusieurs enfants et elle a été victime pendant plusieurs années de harcèlement moral et de manipulation. Je vous propose d'écouter son témoignage. Chapitre 1. Une jeunesse complexée. Bonjour Marie.
Bonjour.
Marie, vous avez une quarantaine d'années, vous avez des enfants. On va voir avec vous, vous avez vécu une histoire douloureuse, peut-être même d'ailleurs encore en cours. Mais je voudrais qu'on remonte bien plus loin, hein, qu'on essaie de voir ce qui s'est passé avant cette histoire. Qui était la petite Marie? D'où arrivez-vous? De quel genre de famille est-ce que vous gardez, quels souvenirs vous gardez de votre jeunesse?
Je viens d'une famille nombreuse avec un père travailleur, une mère au foyer, des frères et sœurs nombreux.
Une famille classique, vous diriez? C'était quoi? C'était une famille ouvrière?
Une famille ouvrière,
oui. Une famille ouvrière?
Ouvrière, classique, voilà. Un parcours scolaire avec des difficultés vu que mes parents sont d'origine étrangère.
D'accord. Donc il y avait vous n'étiez pas brillante à l'école, c'est ça que...
Tout à fait. J'ai eu beaucoup de difficultés parce que j'avais eu des parents d'origine étrangère qui ne pouvaient pas m'aider.
D'accord.
Sur mon parcours scolaire.
Ça c'était compliqué. C'est quelque chose qui était douloureux, ça, ou c'est quelque chose...
Oui, c'était douloureux parce que je n'avais pas de personne sur qui m'appuyer pour m'aider.
D'accord. Et comment... qu'est-ce que... Alors, l'école était douloureuse.
Tout à fait.
Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui vous rendait heureuse?
Ben, ma famille, l'amour de mes frères et sœurs, les sorties,
ouais.
Les vacances...
Ouais. Alors, vous étiez d'origine étrangère, justement, vous partiez à l'étranger ou pas? Ou vous aviez encore des liens avec ce pays?
Oui, tout à fait. Une partie de ma famille était à l'étranger et oui, je partais en vacances tous les ans à ce pays,
d'accord.
Chez ma famille.
D'accord. Alors, c'est intéressant parce que donc, vous étiez d'une famille étrangère. Est-ce que vous diriez que la famille dans son ensemble, vous, vos parents... étiez complètement intégré, ou alors est-ce que, je dirais, vous viviez peut-être à part, ou quelle est votre vision de ça?
Non, c'est une famille qui s'est bien intégrée, j'étais bien entourée. Mon père a toujours travaillé depuis qu'il est venu en France, et ma mère, elle a eu beaucoup d'enfants, donc ils ont fait le choix de... qu'elle soit mère au foyer, mais non, je pense qu'ils étaient bien intégrés. Enfin,
d'accord.
On est bien intégrés, oui.
Et vous, ces origines très présentes, vous n'avez jamais eu envie de vivre dans le pays d'origine de vos parents?
Non, je n'en ai jamais ressenti le besoin. Non, je suis née en France et j'étais à l'école en France, je travaille en France. Mon pays, c'est la France, mais mes origines sont là-bas. Mais je n'ai jamais eu le besoin d'y vivre en tout cas.
Aujourd'hui, vos origines, c'est quelque chose qui est encore très présent dans votre vie de tous les jours?
Tout à fait, oui.
Oui,
oui, oui. C'est, sans mes origines, je ne suis pas moi en fait.
En,
ça
quoi,
fait partie de moi.
En quoi c'est présent?
En tout, dans mon alimentation, dans mes projets de vacances, dans notre famille. Dans tout.
Alors, est-ce que la religion joue un rôle important dans votre vie aujourd'hui?
Non.
Non? Ni non. À l'époque?
Non.
Non, c'est non. Pas. On est plutôt sur des repères, je dirais, historiques, des repères familiaux,
tout
mais
à fait.
Pas de repères religieux.
Non.
D'accord.
Pas du tout, pas de repères religieux. Oui, c'est plus l'amour de famille, les souvenirs de vacances, voilà.
Alors l'école. Vous le disiez, c'était pas trop votre truc, puisque effectivement vous le disiez, manquiez peut-être de soutien à la maison, peut-être pour vous aider, et puis peut-être aussi une famille nombreuse, c'est pas évident d'avoir la place pour travailler, etc. C'est ça le truc.
Disons que comme ils étaient d'origine étrangère, mes parents, ne sachant pas lire et écrire français, je n'avais pas de soutien pour m'aider, que ce soit en lecture ou en écriture, c'était très compliqué. Mes sœurs et frères avaient déjà leurs devoirs à faire et n'avaient pas le temps de s'occuper de moi.
D'accord.
Du fait qu'on soit nombreuses et nombreux.
Est-ce que la petite Marie avait beaucoup de copains et copines?
Quelques-uns.
Ouais.
Pas beaucoup, mais quelques-uns. Pour jouer, oui, c'était des copines et des copains qui avaient à peu près les mêmes problèmes que moi.
Les mêmes problèmes?
Difficultés de lecture, de D'accord. compréhension, d'écriture.
Donc, pareil, des jeunes d'origine étrangère?
En général, oui.
En général, oui.
Oui.
Comment vous décririez la petite Marie, par exemple, de je sais pas moi, de 0 à 15 ans, vous étiez quoi? Vous étiez une jeune fille insouciante, vous étiez une jeune fille gay, vous étiez une jeune fille tracassée, vous étiez une jeune fille complexée. Comment vous vous définiriez quand vous y réfléchissez?
Je me définirais comme timide, réservée, envie de se cacher du fait que je sois physiquement mince. Oui, n'aimant pas mon corps du fait que je sois presque anorexique.
D'accord. Mais quand vous dites anorexique, vous mettez un mot sur une image où vous êtes, ou à un moment donné, quelqu'un vous a dit vous êtes anorexique, un médecin ou quelque chose comme
non,
ça?
Non, aucun médecin me disait que j'étais anorexique, c'était par rapport à mon image que je reflétais dans la glace.
Donc vous vous trouviez trop maigre?
Tout à fait.
Vous aviez des complexes par rapport à ça?
Oui.
Ces complexes étaient déjà soulevés un peu par votre environnement, par votre entourage, votre famille
Non, pas du tout. J'ai jamais eu des réflexions de qui
non.
que ce soit. C'est vraiment propre à moi-même.
Ça, c'était une histoire entre vous et vous.
Oui, tout à fait.
Donc ça, allez, on va dire jusqu'à 12, 15 ans. Hein, on va dire la jeunesse. Et puis, arrive l'adolescence.
Oui.
Vous êtes toujours dans cette situation à l'adolescence?
Oui.
Toujours complexée?
Oui.
Encore plus peut-être, puisque l'adolescence, c'est un moment où on vit les choses un peu plus intensément peut-être, surtout en termes d'image?
Toujours dans mon adolescence, ce problème avec cette image jusqu'à ma vie d'adulte, de femme.
D'accord.
Jusqu'à récemment même.
Jusqu'à récemment?
Oui. Un effet déclencheur qui m'a fait dire qu'il fallait que j'arrête de me faire des idées dans ma tête.
D'accord. Vous avez, à un moment donné, vous en parliez avec vos amis, vous en parliez avec vos parents de cette conception que vous aviez de vous-même?
Non. J'en ai parlé à mon médecin traitant quand je le voyais. Je lui disais, est-ce que c'est normal de pas être bien grosse, il me disait non, il y a pas, tu n'es pas trop mince, tu n'es pas trop maigre par rapport à ta taille, tout va bien. Il me rassurait quand même par rapport à mon poids et ma taille.
Mais vous le croyez?
Oui, non.
À l'époque?
Oui, non, je ressortais de mon rendez-vous satisfaite, mais quand je me regardais dans la glace, je me disais il y a un problème.
Et vous mangiez?
Oui.
Donc en fait, c'était juste une histoire d'image.
C'était juste une histoire d'image, oui.
C'est ça, une image que vous portiez sur vous-même qui n'était pas, valorisante.
Tout à fait.
C'est ça. Mm. L'adolescence, c'est aussi un moment où on découvre un peu la vie et on découvre les garçons.
Oui.
Ben oui. Vous arrivez dans cette période avec beaucoup d'ados hein, ont une image négative d'eux-mêmes. C'est pas le moment dans la vie où on se sent le mieux dans son corps, en tout cas pour beaucoup d'ados. Vous, comment ça s'est passé? Est-ce que vous regardiez les garçons déjà?
Oui, j'ai commencé à regarder les garçons à partir du collège. Je me sentais à peu près bien, sauf cette image de minceur qui me reflétait sur la glace, mais non, pas de problème particulier vis-à-vis des garçons.
Copain, à quel âge?
La sixième, donc.
La sixième, ah oui, oui, très bien.
Premier bisou,
oui,
la sixième.
Oui, bien sûr, d'accord.
Oui.
Et là, pas de problème avec l'image que vous aviez de vous-même? Vous arriviez à dissocier le fait, donc vous êtes rendu compte que vous pouviez plaire finalement.
Oui, je me suis rendu compte que je pouvais plaire, mais j'avais toujours dans le coin de ma tête cette pensée que j'étais trop mince, mais oui, je pouvais plaire, mon visage pouvait plaire.
D'accord. En sixième, le premier petit bisou.
Oui.
La première histoire, entre guillemets, sérieuse avec un garçon. Vous diriez que c'était à quel âge?
19 ans.
À 19 ans.
Mmh. Enfin, 18 ans.
À 18 ans, d'accord. Votre famille,
oui.
elle voyait comment les relations que vous pouviez avoir avec les garçons?
La relation que j'ai eue sérieuse avec la première relation à mes 18 ans, très mal perçue.
Très mal perçue?
Oui.
Pourquoi?
Tout simplement parce que cette personne est de couleur différente.
D'accord. Donc ça, vos parents, ils ont eu du mal.
Ils n'avaient pas l'habitude, oui, donc ils ont eu du mal.
D'accord. Avant ce garçon-là, vos parents surveillaient un peu vos relations, pas du tout?
Pas du tout, ils avaient confiance en moi et j'étais libre, oui, tout à fait.
Et vous, quelle était la vision que vous aviez des garçons, justement? Qu'est-ce que vous recherchiez?
Un peu le même parcours que mes parents, quelque chose de sérieux. Je me disais que le premier garçon allait être le bon, avec qui je pensais faire ma vie. D'accord. Avoir des enfants, me marier, fonder une famille, construire une vie. Chose que...
Dès l'adolescence.
Dès l'adolescence, oui.
Dès l'adolescence, oui. Vous vous disiez, moi, le garçon que je veux, il sera père de mes enfants. C'est comme ça, oui. que vous envisagiez les choses?
Oui, tout à fait. Je m'imaginais, le premier garçon, ça sera le bon.
D'accord. Et j'imagine que toutes les filles qui étaient avec vous au collège et tout ça, elles ne voyaient pas les choses tout à fait comme ça non plus.
On n'en parlait pas trop.
On n'en parlait pas trop?
Non, on n'en parlait pas trop.
À l'adolescence? Pas trop d'amis non plus?
Pas trop d'amis non plus, une amie vraiment particulière, auquel je pensais compter.
Une amie proche,
meilleure amie, ouais.
Ouais.
Après quelques connaissances, mais pas vraiment des amis,
D'accord. Donc quand même cette perception, cette projection dans un couple, elle se matérialisait au sein d'une culture familiale. En fait, vous voyez les choses comme l'avaient fait vos parents ou votre famille.
Tout à fait,
c'est
oui.
Ça, hein?
C'est ça.
D'accord. Cette première relation, vos parents moyen-moyen, hein, et
tout à fait.
Moyen-moyen, comment vous l'avez vécu? Parce que là, pour le coup, en quelque part, vous vous opposiez un peu à eux. S'ils avaient des résistances par rapport à ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez quand même continué à le voir ou ça a fini par capoter à cause de ça?
Alors, j'aurais imposé chez eux mon petit ami, mais je savais tout à fait qu'ils étaient contre. Mais j'ai quand même persisté et j'ai continué à le voir et à entretenir notre relation et même à s'installer après avec cette personne et faire des enfants avec cette personne en pensant que ça allait marcher et durer dans la vie, quoi, que j'allais rester avec cette personne. Et
là, vous étiez sur la bonne route.
J'étais sur la bonne route, je pensais l'être.
Et vous avez réussi, et vos parents ?
On finit par accepter notre
relation.
Ils aimaient leur
fille.
Tout à fait, oui.
Ils aimaient leur fille.
Tout à fait.
Chapitre 2, une rencontre sécurisante. Marie, finalement, tout était bien parti. Hein. Vous rencontrez un jeune homme. Bon, vos parents ont du mal à l'accepter au départ, mais finalement, ils aiment leur fille. Donc, tout se régularise tranquillement. Vous avez plusieurs enfants avec lui.
Oui.
Comment ça s'est passé, cette histoire ? Vous êtes restés combien de temps ensemble ?
7 ans.
7 ans. Comment ça s'est passé ?
Ça s'est très bien passé. Tellement que ça se passait bien, on a décidé de s'installer ensemble, très jeune. Lui, il était étudiant. Moi, j'étais en apprentissage. On avait décidé que je paierais les factures et que lui, il étudierait le temps de passer ses permis poids lourds. Tout se passait bien et puis le temps passe et puis j'ai 18 ans et puis j'ai envie d'avoir des enfants. Donc le premier enfant, je lui en parle, je lui dis que j'ai envie d'avoir un enfant. Lui, étant encore étudiant, il se dit oui, bon, c'est pas trop une bonne idée, mais bon, d'accord. Donc, le premier enfant arrive, tout se passe bien. Je continue à faire mon apprentissage. La vie continue. Et puis là, on déménage dans un autre logement, on s'installe, il passe ses permis, il les obtient, et moi, je continue à travailler, chercher du travail.
Et un deuxième enfant ?
Et un deuxième enfant, un an et demi après.
Ouais.
Chose qui n'était pas prévue à ce moment-là, le deuxième aussi rapidement. Et le papa n'était pas trop d'accord. D'avoir le deuxième n'était pas prêt et moi c'était pas prévu non plus, mais j'ai décidé de garder le deuxième enfant.
D'accord. Ça a un impact ça sur la suite de votre couple ?
Ça a un impact, oui, effectivement, puisque après il pense que je lui ai fait un enfant dans le dos sans lui demander son accord et de là ça commence à se compliquer.
Le couple s'effrite ?
Oui, ouais. Les disputes arrivent.
Disputes sans plus ?
Sans plus.
Les disputes de couple ? Comme il peut y en avoir dans tous les couples.
Tout à fait, oui.
D'accord.
Et puis
la fin du couple.
La fin du couple arrive. Le papa me reproche de ne pas être assez engagé dans mes projets de travail, de ne pas trouver de travail fixe, du fait qu'on avait des projets de s'installer dans une maison et. N'ayant pas de travail fixe, on ne pouvait pas accéder.
Oui. Bien sûr. C'est quoi, vous étiez très maman ?
Très maman, oui.
C'est ça ? Vous, dans l'idéal, vous seriez restée à la maison pour vous occuper de vos enfants ?
Non.
Vous aviez du mal à trouver du travail.
C'est ça.
Mais c'était pas à cause des enfants.
C'était pas à cause des enfants, non. J'avais du mal à trouver de travail parce que dans ce que je voulais, il n'y avait pas de débouché. D'accord. C'était surtout pour les étudiants.
Donc, à un moment donné, vous décidez de vous séparer.
Il décide de se séparer.
D'accord.
En me faisant des reproches comme quoi je n'étais pas assez engagée dans ma vie de travail et qu'il ne pouvait plus supporter cette situation.
Grosso modo, la séparation se passe bien ?
Pour moi, douloureuse parce que j'avais encore des sentiments. Mes enfants étant encore tout petits, je ne savais pas comment j'allais me débrouiller pour l'avenir et survenir à leurs besoins. Mais un petit peu compliqué pour moi, d'accord. Plus pour moi
votre
que pour
lui. Votre famille était présente là, à ce moment-là, autour de vous, pour vous aider
Beaucoup de soutien, oui.
D'accord.
Oui.
Allez, cette page est tournée, c'est une page Une page douloureuse, bien sûr. Les enfants ont continué à voir leur papa?
Tout à fait.
Bon, donc on va dire une séparation réussie. Alors, c'est jamais gay une séparation, mais une séparation réussie. Vous avez quel âge à ce moment-là?
J'ai 21-22 ans.
Bon, vous êtes encore jeune.
Oui.
Vous êtes une belle jeune femme et vous pouvez profiter de la vie.
Tout à fait. Hein,
ce qui se passe.
Oui.
Combien de temps vous restez toute seule au sens non engagée sérieusement?
Ou ben jusqu'à maintenant presque. Hein, jusqu'à cette séparation et maintenant, je me suis jamais réinstallée avec quelqu'un.
D'accord. Il n'empêche quand même que vous avez rencontré une personne qui, à un moment donné, s'avère toxique dans
Tout
votre
à fait.
Vie. Cette personne-là, vous la rencontrez, vous avez quel âge à peu près?
Entre 24 et 25 ans.
D'accord. Comment vous le rencontrez?
Je le rencontre grâce à une amie qu'on a en commun, par le biais de mon entourage. C'est une personne qui n'est pas originaire de la même ville que moi, donc la première rencontre un peu compliquée à organiser. La première rencontre physique du moins.
Vous le rencontrez comment? C'est-à-dire que vous le rencontrez lors d'une soirée, on vous en parle, comment ça s'est passé?
Non, on se parle sur les réseaux sociaux. La première rencontre avec une vraie discussion s'est faite sur les réseaux sociaux.
D'accord. Pourquoi sur les réseaux sociaux? Il vous plaisait comme ça?
C'est lui qui était rentré en contact avec moi et qui m'a trouvé sur les réseaux sociaux. Il y a eu un premier message auquel je n'ai pas répondu tout de suite parce que je ne savais pas qui était cette personne. Et puis un jour, n'ayant rien à faire et par ennui peut-être, je me connecte sur les réseaux sociaux et je vois ce message et je me dis tiens, c'est bizarre, cette personne me parle comme si elle me connaissait alors que je ne la connais pas. D'accord. Donc j'ai laissé un peu de temps passer, un mois et demi après, je me suis dit bon, par curiosité aussi, je voulais savoir qui était cette personne. Et je réponds à ce message. D'accord. Un mois et demi après.
Là, les discussions s'enchaînent.
Donc la première discussion s'enchaîne. Il me dit qu'il connaît une personne que je connais aussi de mon entourage. Et de là commence le début.
Donc une discussion au départ, non pas une relation, mais en tout cas des échanges virtuels sur
tout
les réseaux sociaux.
Oui.
Il y a eu combien de temps entre le premier message et la rencontre réelle?
Un mois.
Un mois.
Oui.
D'accord. Vous étiez impatiente de le rencontrer?
Pas plus que ça, non.
Pour vous, c'était quelqu'un avec qui vous discutiez, point?
Oui, avec qui je passais du temps un peu sur les réseaux pour m'occuper. Parce que quand mes enfants étaient à l'école et que je ne travaillais pas et que j'avais tout ce que j'avais fait dans ma journée, je me disais, tiens, je vais me connecter sur les réseaux. Et là, je voyais qu'il était connecté, donc on se parlait, et voilà.
D'accord. Rien d'extraordinaire.
D'amical.
Et puis la rencontre. Alors vous la rencontrez comment?
Alors on se met d'accord pour que ça soit cette personne qui vient dans la même ville que moi en premier, parce que j'estime que ce n'est pas à la femme de faire le premier pas.
D'accord.
Donc il s'avère qu'on organise durant un week-end qu'ils viennent passer le week-end dans la même ville que moi.
D'accord. Et là, vous le rencontrez?
Et là, je le rencontre.
Avec des amis ou
toute seule?
Toute seule.
Toute seule, on se donne un point de rendez-vous.
D'accord.
Il était tout seul aussi. Et là, je vais au point de rencontre.
D'accord. Et alors? Voilà.
Et alors, il arrive avec un bouquet de fleurs, un gros bouquet de fleurs.
Ouais.
Chose que je n'avais jamais eue auparavant.
D'accord. Donc là, ça vous a fait plaisir?
Ça m'a fait plaisir.
Ça m'a fait plaisir.
Heureuse, contente.
Bien sûr.
Qu'on ait pensé à moi avec ce geste. Qui sortait de l'ordinaire pour moi, parce que je n'ai jamais eu l'habitude de ça.
Bien sûr. Et donc vous discutez, vous avez pris du temps pour discuter un petit peu. Donc il vous offre le bouquet de fleurs, c'était quoi? C'était dans un lieu public? C'était
Dans un lieu public, en pleine journée.
Voilà.
Suite à ça, donc on se parle un peu de nos vies. On va boire un verre dans un bar, on se pose, on discute de nos vies, de chacun.
Qu'est-ce que vous en pensez à ce moment-là? Il est charmant?
Je pense que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui sait ce qu'il dit. La confiance commence à arriver tout au début.
Qu'est-ce qu'il faisait à ce moment-là? Lui, il travaillait, il était...
Il était chef d'entreprise, il travaillait, il se décrivait comme une personne aimant son métier, quelqu'un qui était sûr de lui, qui connaissait pas mal de choses.
Voilà. Ça vous a impressionné, ça?
Oui.
Ça vous a impressionné?
Oui.
Cette première rencontre se passe. Vous continuez, j'imagine, à entretenir une relation sur les réseaux sociaux, enfin des discussions en tout cas.
Oui, et puis on commence à se parler en tant que visio.
Oui, en visio, d'accord.
Voilà, donc okay. Il me montre son habitation. Comme il était chef d'entreprise, il me montre ses salariés pour faire
d'accord.
connaissance.
D'accord.
Donc là, je me dis, oui, il ne m'a pas menti, c'est bien vrai, il est bien patron, il a bien des salariés.
Quand commence à apparaître l'idée qu'il pourrait se passer quelque chose entre vous?
Tout au début. À la première rencontre, puisque quand on s'est rencontrés, il a passé le week-end sur la même ville que moi et il a rencontré dès ce premier week-end une des personnes de mon entourage et ça s'est très bien passé.
D'accord.
Donc là, je me suis dit, oui, tiens, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, il s'entend bien avec cette personne, bon, ça a l'air quelqu'un de bien.
C'est important pour vous.
Oui.
C'est important pour vous que d'autres le voient et...
Oui.
Et effectivement valide un peu oui. l'attrait que vous pouviez avoir envers lui.
Tout à fait.
Donc ça, c'est l'intention qui commence à naître.
Tout à fait.
Et quand est-ce que ça se concrétise longtemps après?
Alors, ça se concrétise à peu près un mois après, lors du deuxième rendez-vous.
D'accord. Là, vous pensez à quoi, puisque vous ne vivez pas dans la même ville?
Je me suis dit, bon, pour le moment, on va se voir l'un chez l'autre. Moi, je vais aller chez lui. Lui, il va venir chez moi. On va voir comment ça se passe. Et puis, je lui présenterai mes enfants, voir aussi comment ça se passe. Je lui présenterai tout mon entourage, voir comment ça se passe. Et de là, on verra bien ce qui se passe.
Donc, si je comprends bien, une fois que tout l'entourage a validé, pour vous, ça peut devenir sérieux.
Oui.
C'est ça.
De toute façon, moi, je ne peux pas envisager une relation avec une personne si ce n'est pas sérieux.
D'accord.
Toutes mes relations ont duré un certain temps.
Qu'est-ce qui vous plaisait chez lui?
Le fait qu'il soit rassurant, qu'il sache ce qu'il dise, ce qu'il dit. Quelqu'un qui... Comment dire? Qui sait ce qu'il dit. Surtout, qui a la tête sur les épaules, qui... Voilà.
Ça, c'était important pour vous,
oui.
C'est un gage de sérieux et de sécurité.
Tout à fait, oui.
Et de sécurité aussi.
Voilà, tout à fait. Étant maman, j'avais besoin d'une personne qui sache ce qu'il dit, qui soit responsable. Je ne peux pas mettre mes enfants dans une histoire où c'est pas sérieux.
Les enfants,
oui.
Il les perçoit comment?
Alors, il me dit qu'il accepte les enfants, que dès le départ, je lui dis que j'ai des enfants, il n'y a pas de problème pour lui, lui, il n'en a pas. Il souhaite en avoir, mais moi, à ce moment-là, je ne suis pas prête d'en avoir d'autres, en fait. C'est une discussion qu'on aura plus tard et auquel je vais changer d'avis.
D'accord. Chapitre 3, une rupture aux lourdes conséquences. Marie, cette histoire dure 7 ans et puis un jour, vous décidez que ça s'arrête.
Oui.
Donc vous prenez vos enfants, vous repartez chez vous.
Oui,
Et lors d'un week-end.
Oui, je repars chez moi et de là, je reprends ma vie d'avant. Le travail, les enfants,
voilà.
La famille, l'entourage.
Donc une histoire de régler, des souffrances en moins, en tout cas c'est ce que vous imaginez.
C'est ce que je pensais.
L'histoire a été assez chaotique puisque vous recherchez la sécurité et finalement vous avez eu du mensonge, mais je dirais, c'est malheureusement presque banal, Jusque-là, rien d'extraordinaire, même si effectivement ça ne ressemblait pas à l'histoire dont vous rêviez.
Oui.
À partir de là, par contre, les soucis commencent.
Oui. Commence le harcèlement, donc le harcèlement téléphonique, harcèlement sur mon téléphone fixe, sur mon téléphone mobile, ainsi que harcèlement auprès de mes enfants sur leur téléphone. Donc là, un appel, deux appels, trois appels dans la même journée, cinq appels, et après on compte plus tellement qu'il y a d'appels. Donc,
qu'est-ce qu'il dit ?
Il dit qu'il veut me voir et qu'il veut me parler.
D'accord. Et à un moment donné, vous lui dites pas non ? Oui.
Au départ, je décroche, je dis qu'on n'a plus rien à se dire, que j'ai pris la décision que c'était terminé, et qu'il fallait plus téléphoner.
D'accord. Mais il n'arrête pas.
Il continue. Donc une fois, deux fois, tous les jours, comme ça. Arrive le week-end où là, je vois arriver à mon domicile. Donc la première fois, j'ouvre la porte quand même, et il veut des explications. Je lui dis que c'est terminé par rapport à ses mensonges, et que c'était terminé, que je voulais plus continuer, que c'était fini.
Et il comprend pas ?
Il comprend pas, il continue. Donc là, il commence à arracher l'accès internet de mon téléphone. À l'extérieur de mon domicile, et donc
du téléphone fixe
ouais. Tout à fait. Et donc après il retourne dans son véhicule, et donc là je me retrouve sans téléphone, donc j'essaie de l'appeler pour savoir qu'est-ce qu'il a fait pour que je puisse le remettre en place, et donc il me dit bah tu te débrouilles, et là commence à me parler mal.
D'accord. Des insultes ?
Pas d'insultes, mais parler mal. T'as qu'à te démerder.
D'accord.
Le gars de démerder, tu te débrouilles, t'as qu'à rester avec moi.
D'accord.
Et je te dirai comment remettre.
Ça s'inscrit dans le temps. Combien de temps ça dure, ces appels
Tout le temps. Tout le temps jusqu'à que ça passe au tribunal.
D'accord. Donc quand vous dites tout le temps, c'est combien ? C'est 2 mois, 6 mois
Oh non, 2 ans.
2 ans. Deux ans, il appelle tous les jours.
Il appelle tous les jours. Donc, à un moment donné, je décide de changer de numéro de téléphone. Donc, je change de numéro de téléphone fixe, de numéro de téléphone mobile. Et le téléphone fixe, je débranche carrément. Je débranche carrément mon téléphone. Et sur le téléphone de mes enfants, je leur dis de bloquer son numéro.
D'accord.
Puisque ce n'est pas moi qui paye l'abonnement de mes enfants, donc j'ai pas le choix que de bloquer le numéro. D'accord. Mais par contre, il continue sur les réseaux sociaux.
D'accord.
Donc sur mes réseaux sociaux à moi, sur les réseaux sociaux de mes enfants.
Il n'était pas bloqué sur les réseaux sociaux ?
J'ai fini par le bloquer, oui.
D'accord.
Et ainsi que mes enfants aussi.
Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Dans quel état d'esprit vous êtes pendant que ça se passe ?
Je me dis que ça va. Au début, je me dis que ça va arrêter. Quand il va voir que je lui réponds pas, ça va s'arrêter. Du fait que je ne porte pas plainte tout de suite. Mais du coup, la nouvelle année arrive. Et là, il revient. Il m'attend à la sortie de mon travail. Il se cache dans son véhicule. Moi, j'arrive auprès de mon véhicule. Je ne vois pas qu'il est là. Et quand je vais pour monter dans mon véhicule, il sort de son véhicule. Et là, altercation. Altercation, il me pousse contre un mur, il serre mon écharpe presque à m'étouffer, et un passant qui est venu me porter secours.
Vous avez peur à ce moment-là ?
Oui, j'ai peur. Je ne sais pas de quoi il est capable.
D'accord.
Mais il ne me tape pas, il me bouscule, il me... D'accord. Voilà. Et il me force à rentrer dans son véhicule.
D'accord.
Chose que j'essaie de me débattre, je ne rentre pas dans son véhicule. Donc de là, il y a le passant qui est arrivé, il m'a demandé si j'avais besoin de secours, j'ai dit oui. Ce passant a appelé la police. Il a entendu, il a pris peur, je suppose, il est parti. La police est venue. Ils m'ont dit, est-ce que vous pensez qu'il est chez vous ? J'ai dit, je pense qu'il est parti chez moi, oui. Donc on est parti jusqu'à chez moi, parce qu'en fait, il m'avait pris mon téléphone avant de partir.
D'accord.
Il a pris, enfin, volé mon téléphone.
Volé le téléphone.
Et la police m'a demandé si je pensais où il était. Donc j'ai dit chez moi, et donc on a été chez moi. Effectivement, il était bien en bas de chez moi.
D'accord.
Donc ils l'ont interpellé.
D'accord.
La police m'a demandé si je voulais porter plainte. Je pensais que du fait qu'il ait vu la police, ça allait s'arrêter là et qu'il allait prendre peur. Et en fait, non.
Et vous n'avez pas porté plainte ?
Je n'ai pas porté plainte.
D'accord.
L'erreur que j'ai faite.
Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous décidez à porter plainte ?
Parce que ça continue. Il revient le week-end d'après.
D'accord.
En bas de chez moi.
Et c'est le week-end d'après que vous portez plainte ?
Peu de temps après, oui.
Peu de temps après.
Oui.
Vous portez plainte pour quoi ?
Harcèlement.
Mais pourquoi ?
Parce qu'en fait, il écrit sur ma porte, il écrit sur ma boîte aux lettres des choses, je t'aime, comme si on était encore ensemble, des mots doux, et c'est la répétition, tout le temps. À chaque fois qu'il vient, il m'écrit sur ma porte, sur ma boîte aux lettres, sur ma voiture. Il continue à me téléphoner.
Vous en parlez autour de vous ? À vos amis, à votre famille ?
Oui.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Alors,
vous portiez plainte, hein, pendant qu'il vous harcèle, est-ce que vous en parlez et qu'est-ce que vous disent les gens ?
Qu'il va pas bien, que c'est pas une bonne personne, c'est une personne nocive.
Oui.
Que c'est pas normal de faire ça.
D'accord. Et ils vous disent de porter plainte ?
Alors, tout au début, non, parce qu'ils pensent que...
Ça va s'arrêter.
Ça va s'arrêter, oui. Le fait de ne pas répondre, de ne pas dire oui à ses avances, de revenir avec lui, tout ça, parce qu'il me demandait de revenir avec lui, clairement. Mmh. Mais je ne répondais pas, je faisais la morte. On me disait, fais la morte, ne lui réponds pas.
D'accord.
Chose que j'ai fait.
Qu'est-ce que vous diriez, quel est l'élément qui fait qu'à un moment donné, vous dites, bon, ben là, c'est bon, là, j'y vais, je vais porter plainte, parce que là, je ne peux plus. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un moment où vous avez eu peur ? Est-ce que c'est un moment où vous avez pris conscience que ça ne s'arrêterait jamais ? Qu'est-ce qui a fait que vous dites, je vais à la police ce coup-ci ?
Quand il s'en prend clairement à mes enfants sur leur téléphone. Quand il harcèle mes enfants sur leur téléphone, qui se fait passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux pour avoir accès à mes enfants pour pouvoir m'avoir en fait.
D'accord.
C'est trop.
Donc là, vous allez à la police ?
Oui.
Vous allez au commissariat ?
Oui.
Comment êtes-vous reçue ?
Pas super bien, parce que presque on me rigole au nez, parce que comme c'est du harcèlement, mais j'avais pris des photos, moi, des écritures qui m'écrivaient sur ma porte, ma boîte à lettres, ma voiture, et comme c'était que des mots doux, qui n'avaient pas d'insultes et pas de violence physique, ils ne m'ont pas pris au sérieux.
Ils ne vous ont pas pris au sérieux ? Ils ont quand même pris votre plainte ?
Ils ont pris la plainte.
D'accord. Et derrière,
rien.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il se passe rien. Je prends mon avocat.
Vous espériez quoi, vous ?
J'espérais qu'il arrête.
D'accord. Vous lui avez dit que vous aviez porté plainte ?
Oui.
D'accord. Qu'est-ce qu'il vous a dit ?
Je pense qu'il n'a pas pris au sérieux. Il ne pensait pas capable de le faire. Donc je pense qu'il n'a pas cru que j'ai vraiment porté plainte. Il ne croyait pas quand je disais que j'ai porté plainte.
Ce harcèlement permanent, ça a quel effet sur votre vie de tous les jours ?
Manque de sommeil, envie de vomir, angoissé, se sentir surveillé, clairement. Pas bien du tout, angoissé. Mes enfants me voyaient angoissé aussi, du coup, elles s'angoissaient, ils s'angoissaient aussi. Mmh. Angoissé en permanence. Pas tranquille, j'étais pas tranquille. Manque de sommeil, je dormais quasiment pas. Plus envie de manger aussi.
Combien de temps il s'est passé entre la plainte et le fait qu'il ait des comptes à rendre ?
Au niveau de la justice ?
Oui.
Il s'est passé au moins 25 plaintes. Donc 2 ans.
25 plaintes ?
Oui.
D'accord. Donc c'est-à-dire que vous avez porté une première plainte, vous avez déposé une première plainte, il a continué. Mmh. Et donc, vous avez reposé à nouveau des plaintes,
oui.
25 fois.
Oui, mon avocat me disait, il faut porter plainte à chaque fois qu'il vous harcèle, c'est-à-dire au téléphone, que ce soit même des mots. À chaque fois, vous allez au commissariat porter plainte. D'accord. Plus vous porterez plainte, à un moment donné, ça va se déclencher. Chose que j'ai fait.
Qu'est-ce que vous disiez au commissariat ?
Et qu'il n'y avait pas de violence physique. Donc, des fois, quand je trouvais ça trop long, j'allais au commissariat pour savoir où ça en était, mes plaintes. Mmh. Et on me disait, dites-moi, ça fait combien de temps que vous avez porté plainte ? Donc, c'était le mois d'avant ou la semaine d'avant. Et donc, on me disait, bah oui, mais vous n'êtes pas la seule à avoir porté plainte, ça met du temps.
D'accord. Mais un jour, la police fait quelque chose. A fait quelque chose.
Un jour.
Qu'est-ce qui s'est passé ? Racontez-nous.
Alors, tout d'abord, il y a eu la gendarmerie de sa ville qui m'appelle. D'ailleurs, ce gendarme, je le remercierai au jour d'aujourd'hui si je le voyais. L'a interpellé sûrement pour l'auditionner. Et donc, de là, ça a commencé. ça a commencé vraiment.
Donc, l'histoire s'est mise en route.
L'histoire s'est mise en route, oui.
D'accord. Donc là, il y a eu un procès. Il y a eu un procès.
Au tribunal en comparution immédiate. D'accord. Où il a été jugé et condamné.
Il a reconnu les faits de harcèlement.
Oui, il a reconnu tout de suite, oui.
D'accord. Il a été condamné.
Oui, il a été condamné.
D'accord.
À ne pas venir à mon domicile ainsi que de ne pas approcher mon enfant non D'accord. plus.
Des mesures d'éloignement,
oui.
en fait.
Oui.
Voilà. Il n'y a pas eu de prison, il n'y a pas eu de choses comme ça.
Il avait été condamné à 6 mois de prison avec sursis.
D'accord. Et mais de ce jour-là, ça s'est arrêté?
Ça ne s'est pas arrêté, il a continué, il a fait appel.
D'accord, donc il a fait appel
de la décision.
Mais est-ce qu'il a arrêté de voir ce lien?
Non, il a continué.
D'accord. Vous avez recontinué à porter plainte?
Tout à fait, je continue tout le temps à porter plainte.
D'accord.
Il est rentré en collision avec ma voiture. Mmh. Il m'est rentré dedans avec sa voiture.
Volontairement?
Voilà. Je pense.
D'accord.
Quand j'ai été porter plainte pour cet accident qui m'est rentré dans ma voiture auprès de mon travail, mmh. on m'a dit au commissariat que je ne pouvais pas porter plainte directement contre lui parce que ça pouvait se retourner contre moi du fait que c'était une collision.
D'accord.
Qu'il soit rentré d'abord dans une autre personne avant de me percuter,
d'accord.
moi, en fait.
D'accord.
Donc, on m'a déconseillé de porter plainte. On m'a dit de faire une main courante.
D'accord.
Mais
une première
ça continue.
Fois, il est condamné.
Oui.
Il
fait appel.
Il fait appel, il continue.
Il continue.
Vous reportez plainte.
Oui, à chaque
encore.
Fois. Il y a l'accident de voiture. Oui. Et il y a le GPS tracker.
D'accord.
Le
GPS
premier.
Tracker. C'est-à-dire
oui. Un GPS qui va mettre sous mon véhicule pour savoir où je me trouve, à quelle heure je me trouve.
D'accord.
Oui, le premier.
Le premier, c'est-à-dire qu'il y en a eu plusieurs.
Il y en a eu un deuxième.
D'accord. La police a vu ça?
Oui.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on est parti en week-end et j'avais laissé ma voiture. J'ai caché ma voiture dans une rue de ma ville.
Oui.
Parce que, en sachant que lui n'était pas de la même ville, il ne pouvait pas savoir où j'avais caché ma voiture.
D'accord.
Et je pars en week-end. Je reviens de ce week-end, je récupère ma voiture et je vois qu'il y a un mot sur mon pare-brise.
D'accord.
Je reconnais l'écriture.
D'accord.
Donc je me suis dit, comment ça se fait qu'il a trouvé mon véhicule? J'ai dit, c'est pas possible, il y a quelque chose. Donc là, je fais le tour de ma voiture, je regarde sous ma voiture et je vois quelque chose de pas normal.
D'accord.
Je parle à la personne qui était avec moi, il me dit, on va au commissariat, on va faire voir ta voiture. Et là, on me dit que c'est un GPS tracker.
D'accord.
Je porte plainte, encore une nouvelle fois. Et de là, il s'enclenche la dame du commissariat qui m'appelle. Ne connaissant pas le numéro de téléphone, je n'ai pas décroché. Elle m'a laissé un message la semaine d'après, me disant qu'elle faisait partie du commissariat de Limoges et qu'il fallait que je prenne contact avec France Victime.
Chapitre 4, la reconstruction. Marie, on pourrait penser que la découverte de ce tracker sous votre voiture va amener la police à accélérer un peu le mouvement. Ça n'a pas été vraiment le cas. Hein, il a fallu y revenir plusieurs fois avant qu'il se passe quelque chose. Néanmoins, par rapport à la première fois, il y a un nouvel élément, c'est France Victime.
Oui.
Qui vous conseille d'aller voir France Victime?
Une dame, je pense que c'est la psychologue du commissariat.
Du commissariat. Mmh. Alors France Victime, ils vous permettent de bénéficier d'un téléphone spécial.
Il me propose de prendre un bouton shérif.
Ouais. Que vous ne prenez pas.
Que je ne prends pas parce qu'ils me disent qu'il vaut quand même vaut mieux favoriser l'appel à la police quand
D'accord.
même.
D'accord.
Alors je me suis dit que ça ne servait à rien ce
ouais.
bouton, mmh. donc je ne l'ai pas pris.
D'accord.
Mais j'ai continué à être en contact avec France Victime.
D'accord. Et en fait, France Victime. Ils vous ont été finalement d'un grand secours parce qu'ils ont fait l'intermédiaire avec la justice.
Oui, plus que mon avocat finalement.
Oui.
Il m'avait dit, à chaque fois que vous déposez plainte, donnez-nous les plaintes, on le transférera au procureur de la République de Limoges. À chaque fois que vous déposez plainte, donnez-nous la plainte, on leur donnera.
D'accord.
Chose qui s'est passée.
Et donc là, ça a accéléré un peu le mouvement par rapport à la police. J'imagine aussi, vous, que ça vous a soulagé.
Oui.
Hein, de savoir qu'il y avait un intermédiaire qui était là auprès de la police.
Oui. À force de porter plainte, le procureur de la République de Limoges a accepté de me délivrer un téléphone de grave danger.
Donc un téléphone grave danger, c'est quoi ?
C'est un téléphone qu'on vous prête durant une durée que le procureur a décidé, que vous déclenchez dès que vous vous sentez en danger.
D'accord. Donc vous l'avez actionné ?
Je l'ai déclenché à deux reprises.
À deux reprises ?
Oui.
Alors, ça n'a pas permis de l'arrêter tout de suite.
Non.
Par contre, effectivement, ça a permis d'aller plus loin quand même. Et il y a eu un second procès.
Oui, il a été condamné à 12 mois de prison avec sursis, ainsi qu'interdiction de venir dans la même ville que moi et de m'approcher ainsi que mes enfants d'une durée de 3 ans.
Alors, quelque chose de très différent par rapport au premier procès, parce que même s'il a du sursis ou quoi que ce soit, là, ce coup-ci, il a un bracelet.
Oui, il a un bracelet d'interdiction de m'approcher.
Donc là, ça change tout.
Ça change tout.
Puisque effectivement, la police,
oui,
sait lorsqu'il sort de la ville ou essaie, peut le localiser.
Tout à fait, oui. Et je me sens plus en sécurité avec,
avec
ce dispositif.
Bracelet,
ouais. Oui, du bracelet.
Et le téléphone, il a arrêté de vous appeler au téléphone ?
Oui, oui, parce que d'un premier temps, j'ai changé de numéro de téléphone ainsi que mes enfants.
Bien sûr.
Donc oui, ça s'est arrêté.
Est-ce que vous vous êtes senti soulagé instantanément dès que tout ça s'est arrêté ?
Oui, le soulagement tout de suite.
Oui.
Toujours de l'appréhension qui soit autour de moi à me surveiller, mais soulagé.
Soulagé.
Oui.
Vous avez parlé de France Victime qui vous a accompagné dans le cadre des démarches juridiques.
Oui.
Est-ce que vous bénéficiez d'un autre accompagnement de France Victime ?
J'ai un suivi mensuel
ouais.
Je vois tous les mois quelqu'un.
Vous voyez quelqu'un, ça vous fait du bien ?
Ça me fait du bien, oui.
Ça vous aide à comprendre un peu ?
Oui.
Ça vous aide à comprendre votre place dans cette histoire ?
Oui.
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 Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, par exemple, qu'à un moment donné, la peine donc, qui va arriver au bout des 12 mois, ou il doit porter le bracelet pendant combien de temps ?
3 ans.
Pendant 3 ans, est-ce que vous dites dans 3 ans, est-ce qu'il ne va pas recommencer ?
Je me suis déjà posé la question et j'en ai déjà fait part à France Victime.
Oui.
Qui me rassure, qui me dit qu'en 3 ans, il a un suivi
obligatoire ?
Obligatoire médical et psychologique. France Victime pense qu'il va s'arrêter
il va
là.
Comprendre.
Il me rassure.
D'accord. Alors vous êtes encore toute jeune.
Oui. Hein,
vous avez encore toute la vie devant vous. Se pose la question d'une nouvelle histoire.
Oui.
Est-ce que quand vous pensez, quand vous vous projetez avec un autre homme, vous vous dites et celui-là, est-ce que je vais vraiment pouvoir lui faire confiance ?
Oui.
C'est vrai ?
Oui. La peur de tomber encore sur une mauvaise rencontre, quelqu'un de manipulateur comme j'ai vécu auparavant, oui, l'angoisse, oui.
Est-ce que vous pensez que dans cette histoire, justement pour pas que cette histoire se reproduise, vous devez changer ? Est-ce que vous estimez que vous avez une part de responsabilité ou quelque chose qui fait que sur la prochaine histoire, il faudra que vous soyez un peu différente ? Ou
non,
pas du tout.
Je préfère être fidèle à moi-même. Ce n'est pas moi qui ai un problème psychologique ou physique.
Ouais.
J'estime qu'avec le recul que c'était lui qui avait un problème. Et donc, pourquoi je changerais ? Maintenant, avoir confiance dans une nouvelle personne à 100%, peut-être pas. Mais oui, j'ai toujours la peur de tomber sur une mauvaise personne. Oui.
Et aujourd'hui, vous diriez que vous avez toujours besoin d'être avec quelqu'un ?
Oui.
Oui, pourquoi ?
Pour être rassurée. Le manque de quelqu'un, oui, j'ai besoin d'être tout le temps avec quelqu'un pour me rassurer. La peur de la solitude aussi. Après, j'ai aussi peur tout le temps qu'il soit autour de moi.
D'accord. Marie, pour terminer ce podcast, est-ce que vous diriez aujourd'hui que vous êtes heureuse ?
Oui. Je suis heureuse et soulagée que ça soit terminée, presque terminée.
Merci Marie.
Merci.
Je tiens à adresser un immense remerciement à toutes les femmes qui ont eu le courage de témoigner dans ces podcasts. Ce podcast a été réalisé avec le soutien financier de Baby Chou Service Limoges et Harmonie Mutuelle. Il a été réalisé en partenariat et en collaboration avec la délégation départementale Femmes-Hommes de la préfecture de la Haute-Vienne, l'association France Victimes, l'association de réinsertion sociale du Limousin, la maison de protection des familles de la Haute-Vienne et l'association de prévention du psychotrauma chez l'enfant en Limousin. Et un grand merci à Yann Brisson et RTF Limoges pour le montage de l'ensemble de ces podcasts.
Oui, c'est à toutes les femmes battues qui jusqu'à présent se sont tues. Frappé à mort par un sale con, que je dédie cette chanson.